si tu veux, je peux sortir mon arme.
Je vais poursuivre ce que j'ai commencé la dernière fois.
Aaron,
le sermon sur la montagne, avec une espèce de titre un peu original que j'ai appelé La communauté de l'agneau. Un petit jeu de mots avec un film bien connu pour ceux qui aiment un peu les films fantastiques. Et la communauté de l'agneau, c'est cette communauté de disciples dont on fait partie. La communauté de tous les hommes qui suivent le Christ. Avant qu'on ouvre nos Bibles, si tu veux avancer, je voulais juste vous rappeler quelques éléments un peu en introduction. La première chose, c'est que face à Jésus, vous avez deux groupes qui sont là. Vous avez les apôtres, quelque part les disciples, qui vont eux le suivre. Christ les a appelés et ils ont répondu à son appel. Et à eux vont s'ajouter tous les disciples, tous les vrais disciples. Et beaucoup dans cette salle font partie de cette communauté de disciples, de cette communauté de l'agneau. Et puis il y a une autre population qui est là face à lui, c'est la foule. La foule, ils sont venus entendre ce maître, ce penseur. Peut-être ils sont intéressés par son message fort, mais ils n'ont pas encore choisi. Et eux, ils vont leur donner un autre message. Et il y a bien deux populations de vous. Deuxième commentaire, ce discours, le sermon sur la montagne, il est très puissant. C'est-à-dire que vous êtes heureux ou malheureux, on va le dire, vous êtes un bon arbre ou vous êtes un mauvais arbre, vous êtes un disciple ou vous n'êtes pas, vous êtes une maison qui est sauvée ou une maison qui est détruite. Parfois, il y a des discours très mitigés, tout est gris, chacun peut penser ce qu'il veut. Le Seigneur, dans ce sermon, est extrêmement clair, et il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Même si son discours est empreint de grâce, d'amour, il y a un choix à faire très fort. Est-ce que ce texte est une liste de commandements à suivre pour être sauvé? On avait un peu partagé là-dessus. Clairement, ce n'est pas une liste de recommandations, de commandements à suivre pour être sauvé. Ce serait une très mauvaise interprétation du verset 35. Toute la part du l'inverse. Je ne peux me sauver en faisant le commandement. Ça, c'est une religion qui est vraiment une personne. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, vous avez deux groupes de personnes et pour chaque groupe, il y a un message ciblé. Il dit des choses un peu différentes. Quelque part, vos disciples et à nous, on nous rappelle ce qu'il attend de nous. C'est le maître qui parle à ses disciples et qui leur dit c'est ça qu'il attend de vous. Et puis, pour le reste de la foule, il présente des principes. Ce qu'il attend, quelque part, peut dire qu'il est au défi de les suivre pour constater qu'ils ne peuvent pas le faire. Pour constater qu'ils ne peuvent pas se croire juste et que la solution n'est pas en eux. Alors, je vais tout lire et je vais ouvrir vos Bibles en Luc 6. Donc, la dernière fois, on avait lu, et quelque part, j'avais commenté la moitié du sermon sur la montagne. Et ce que je vous propose, c'est de relire tout le texte. Parce que comme ça, c'est l'occasion de lire en intégralité, et quelque part, c'est plus important que les commentaires. J'espère que les commentaires que je vous donnerai permettront de mettre en lumière le fils et au verset 20. Alors Jésus, dans les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. L'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre. prends encore ta tunique. De la quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez, vous serez absous. Donnez, vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse tomber la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, prends premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment est la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, mais un mauvais arbre qui porte du bon fruit. À chaque arbre qui reconnaît à son fruit, ne cueille pas des figues sur des épines, ne mange pas des raisins sur des ronces. Le bon tire de bonnes choses, de bons raisins de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais cœur. Car c'est de la volonté du cœur de la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. L'inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été. Le sermon sur la montagne qu'on lit en ligne, vous avez une version beaucoup plus complète qu'on trouve en Matthieu. Donc, j'ai volontairement choisi celle-ci pour ça, son aspect condensé. Juste, si tu peux avancer, juste pour venir, et je vais vraiment aller très vite, parce que je ne vais pas commenter la première partie du texte, notamment les béatitudes où vous avez cette opposition de quatre heureux et de quatre malheureux qui oppose les valeurs du royaume et les valeurs de ce monde. Alors de ce monde qui sont richesse, confort, satisfaction, succès, reconnaissance des autres, les valeurs du royaume. Parfois, il y a faiblesse, pauvreté, menteur ou exclusion, mais on peut accueillir ces difficultés avec joie parce que tu règnes. Et on peut aussi, dans le monde des royaumes, se méfier des valeurs du monde, se méfier des richesses, se méfier d'être satisfait. Se méfier lorsque chacun nous loue, il faut parfois se méfier d'être endormi. Je ne vais pas plus loin. Le deuxième point qu'on avait vu, c'était au verset 35, où il est parlé des ingrats et des méchants. Est-ce que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants? Le propriétaire était méchant sur ce petit panneau. Qui est ingrat et méchant? Ça n'est pas rapide. Il parle de qui? Tous. Que ce soit la foule, que ce soit les disciples qui sont devant lui, que ce soit vous, que ce soit moi, foncièrement, fondamentalement, profondément, nous sommes dans la vie. Vraiment, ça met une position qu'on verra plus tard. N'ayez vos ennemis, faites bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils d'Israël. Il faut clairement pas interpréter ce verset en disant je fais cela et je serai fils d'Israël. Par tout ce passage et tout ce discours, incapable par mes propres forces, et que si je reconnais mon incapacité à aimer, si je reconnais que je ne peux me satisfaire à Dieu et que j'accepte sa grâce, alors il me fait fils de trahir, et alors, puisqu'il me fait fils de trahir, je pourrai dernier point qui est un peu la transition entre mon message précédent et celui-là. C'est un texte de Prague qui est d'une force incroyable. Je vais relire. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Nous sommes appelés, mais aussi parfois ça nous paraît si loin, si difficile, à imiter notre Maître, à imiter notre Seigneur, puisque nous sommes disciples, nous appelle à faire comme lui, à être comme lui. Maintenant j'imite à la fois mon Seigneur, le Christ, et maintenant j'imite notre Père. Moi, c'est ce que les miséricordieux font, les miséricordieux. Je ne vais pas le dire, mais je vous invite à le faire cette semaine, et donc à le noter. C'est lire Romains 12. Lire Romains 12, du verset 9 au verset 21. Vous allez retrouver une pensée qui est très très proche. J'ai juste les deux versets, mais c'est intéressant que vous lisez l'ensemble de ce. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. Si la soif de lui avoir, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Vous avez un vrai, une autre manière de le dire avec les mots d'apôtre Paul, et pas ceux du Seigneur, mais vraiment avec une exhortation à vraiment user d'amour et de grâce à la mesure de Christ. Et quelque part, la première raison d'être miséricordieux, c'est simplement d'imiter votre Seigneur. C'est pour ça que je veux être miséricordieux. C'est pour ça que je veux être miséricordieux. Parce qu'il est mon maître, il est mon Seigneur, donc je désire ne pas marcher à sa gloire. Et donc je le fais pour ça, je veux l'imiter. Mais il y a une deuxième raison. Si tu veux cliquer. La deuxième raison, elle se trouve dans les versets suivants. C'est que lorsqu'il va parler de juger, de condamner, juger, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé, ne condamnez pas, vous ne serez pas condamné. Il illustre là un principe qu'on retrouve quelque part à travers toute la Bible, qu'on trouve notamment en Galate, qui fait qu'on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Quelque part, c'est la deuxième raison d'imiter mon Seigneur. Je l'imite parce que je l'aime. Mais Christ dit, fais cela parce qu'un jour tu auras une récompense. Fais cela parce que si tu ne juges pas, tu ne seras pas jugé. Et nos actes, quels qu'ils soient, portent, auront leurs conséquences et on verra un jour les résultats de ce qu'on fait. On les verra soit ici-bas, soit au ciel dans l'éternité. J'ai mis plusieurs versets, celui de Galates, celui de Matthieu, Matthieu 6, je veux juste lire Matthieu 19. Justement, il parle à ses disciples en disant « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père ou sa mère, ses terres ou sa maison, recevra le sang du et héritera de la vie éternelle. » C'est clair que notre Seigneur sera bon vers ses disciples qui ont
mets par terre.
sujet de faire le publicain sur ce qu'il ne fait pas. Mais quelle est la plus grande contrevention? Ah, je n'entends pas. Exactement son orgueil. Quelque part, il se déclare juste tout seul. En fait, il ne fait référence à Dieu dans ce qu'il dit uniquement pour confirmer ce qu'il pense. Mais c'est lui qui déclare sa justice. Il n'a pas besoin de Dieu. Il se déclare juste tout seul. C'est lui la référence. Rien à Dieu. A l'inverse, le publicain qui lui n'est pas la vivre, qui lui est un paria pour la période de notre Seigneur, lui, quand il parle de justice, il fait référence à Dieu. Il va dire au Dieu, il se frappe la poitrine et dit au Dieu soit apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il se place simplement en disant la référence de justice.
Allez, les deux bras, ils sont à moitié.
Je ne suis pas Jésus. Il se frappe la poitrine. L'orgueil du pharisien qui se croit juste.
Sont tes pieds derrière.
Ce texte pour moi est stress. J'ai dit la même population, à la fois disciple, à la fois à la foule, n'a pas encore choisi. Christ. Celui qui ne croit pas en Dieu, mais qui se considère comme un homme d'une bonne personne. Il n'a pas tué, il n'a pas hésité. Il estime que ce qu'il fait, il a une vie qui est à peu près morale, il fait des efforts, et ça porte à être critique envers ce que font les autres. Dans ce texte, Christ dit à la personne qui se croit juste, cherche la poutre qui est dans ton œil. Cherche ton cœur qui dit je suis juste.
Ah oui, je la vois pas. Tu vas voir, tu harcèles.
De prendre Dieu pour être en justice. Mais ce texte s'adresse aussi à nous. Je vais dire premièrement à nous. Parce qu'on peut être chrétien, on peut être un enfant de Dieu, on peut s'être tourné vers Dieu en reconnaissant qu'on était un méchant, qu'on était incapable de plaire à Dieu.
On
avait accepté la grâce de Dieu. Soit mais avec le temps, on commence à chercher à plaire à Dieu par nos propres forces, par nos actes. Et on commence à être satisfait de ce qu'on a fait pour Dieu. On vient se présenter devant Dieu en disant qu'on a fait ça pour lui, que c'était pas si mal. Et que je commence à critiquer ceux qui ne sont pas aussi assidus à l'église et qui ne viennent pas chaque dimanche. Ceux qui n'aiment pas la vie en prière. Ceux qui n'ont pas de cravate pour venir à l'église. Ceux qui ne donnent pas la même dîme que moi. Donc, très bien. Dans ce travail, de juger les autres. Et dans ce cas, notre maître nous dit, regarde la poutre qui est dans ton œil, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère. Je vais vous inviter à cultiver un esprit de jugement. Ayez un esprit de jugement envers vous-même, envers les autres. Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. J'espère que dans nos vies, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous les révéler. Charge à nous de lui demander ce qu'il nous révèle là où nous ne voyons pas notre orgueil, notre travers. Si tu veux avancer, il continue derrière avec un principe assez simple de l'agriculture. Il dit qu'un bon arbre prend de bons fruits, qu'un mauvais arbre prend de mauvais fruits. Et on est appelé en tant que disciple à porter des fruits. Mais quelle est la clé essentielle pour porter des fruits? Je vais vous relire le verset 45. C'est pas ça. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le plus important dans nos vies, c'est notre cœur. Mais pour tout, je dirais pour toujours,
mystère de foi, où est-ce que notre cœur est attaché à Christ. J'ai cité le proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les issues de la vie. Pour imiter Christ, pour aimer notre prochain, pour aimer nos ennemis, pour vraiment être accompli, comme il est dit dans un verset qu'on a lu, et pour être comme son mère, le point fondamental, c'est de garder son cœur. Pour illustrer un mauvais exemple, alors on ne va pas le lire, c'est l'histoire de Salomon. Salomon, ce roi d'Israël, qui commence si bien sa vie, puisqu'il demande à Dieu, en fait Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que Salomon veut? Pas de richesse. Il dit accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Et donc Dieu lui donne l'intelligence, la sagesse, plus une plus d'autres. Voici l'homme le plus intelligent, le plus sage de tous les gens. Et juste au début, il termine sa vie vraiment tristement.
Les deux vont entendre la parole. Et plus que ça, les deux.
Carousette. Plutôt qui vient à moi. Je parle de deux secondes. Écoutez. Les deux la mise en pratique c'est d'accepter cette offre de salut, c'est de reconnaître que je suis comme elle, d'accepter que je ne peux pas être impossible, que je ne
suis pas
comme elle. J'ai écrit en Jean 3, verset 18. En fait, il est dit que celui qui croit n'est pas jugé, ne vient pas sans jugement, mais que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et s'il y a dans cette salle quelqu'un qui est émerveillé par ce texte qui dit « Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien attendre en retour », si quelqu'un est ébloui par ce message de Christ qui est sans nul autre pareil dans ce monde, quelqu'un sent que un méchant comme un autre, il ne faut pas simplement entendre, il faut mettre en pratique, il faut passer à l'action et faire ce choix essentiel de bâtir sa vie sur le roc. Ce message, il est aussi pour les disciples, il est aussi pour nous. Est-ce que parfois dans vos vies, vous n'entendez pas votre Seigneur qui vous dit, lorsque vous lisez la parole, Stéphane, pourquoi vous êtes du Seigneur, Seigneur ne pas, dans ce sermon magnifique, il demande aux amis, de faire du bien, d'être plein de grâce, de miséricorde, d'ôter d'abord la poutre et l'orgueil dans mon cœur, avant de voir les défauts de mes frères. Notre Dieu est un Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, mais qui est un Dieu qui est exigeant pour sa vie. Transformer. Il nous amener à lui ressembler. Et souvent dans nos vies, il vient nous chercher sur. On ne fait pas ce que c'est pas comme. Enfin, c'est ça que nous parlons. La dernière fois, on ne peut pas le faire par nos propres forces. Cette capacité va nous venir de Christ qui habite en nous par son esprit. Par contre, on a une action essentielle, c'est de faire le choix. De faire le choix de vivre pour lui et de lui demander de venir nous transformer. Mais fais le choix fut la nuit, la communauté des méchants que Dieu a transformé en fils du très haut. En tant que Dieu est bon avec les méchants et les ingrats, demande grâce. Et surtout passe à l'action aujourd'hui. Je ne demande pas ce que faire. J'invite à un temps de silence et de péché.